Vous êtes au bon endroit pour vous informer. Radio France Internationale, il est 5h à Paris, 1h de plus à Gaza et à Goma. Le journal international. Bonjour Martin
Gaze. Bonjour Vincent Deblange et à tout à l'heure à la une de ce journal. Le retour de 300 000 Palestiniens vers le nord de la bande de Gaza, Israël a enfin autorisé ses milliers de déplacés à rentrer chez eux ce lundi. Dans l'est de la RDC, au moins 17 morts et 370 blessés ce lundi à Goma. La communauté des États d'Afrique de l'Est se réunit demain. Les présidents Tshisekedi et Kagame sont annoncés, mais leur présence n'est pour l'instant pas confirmée. Sur le continent américain, fin du bras de fer entre la Colombie et les États-Unis. Bogota qui envoie finalement deux avions pour rapatrier les migrants colombiens expulsés par Washington. Enfin, la Grande-Bretagne préfère Achille à Azincourt, le nouveau sous-marin britannique qui ne portera finalement pas le nom de cette célèbre victoire militaire anglaise sur la France. Le retour. Enfin, 300 000 Palestiniens ont pu regagner le nord de Gaza, indique le gouvernement du Hamas. L'enclave totalement dévastée par 15 mois de guerre, une véritable marée humaine qui a enfin pu remonter la côte méditerranéenne après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de 6 otages. L'État hébreu qui a finalement autorisé ces centaines de milliers de déplacés à rentrer chez eux. Rami El-Merari a pu les suivre sur le chemin du retour jusqu'à Gazaville. Son reportage avec Sami Bourelifa à Jérusalem.
Le parcours du combattant. Les routes n'existent quasiment plus. Il faut pourtant avancer, faire attention ou mettre les pieds. Au sol, des trous, des tranchées, certains tombent, se relèvent. La foule est immense, une marée humaine qui avance déterminée. Et puis Gazaville apparaît à l'horizon, ce qu'il en reste, des décombres. Et au milieu du chaos, la musique pour accueillir les revenants. Car oui, c'est un jour historique, se réjouit Khaled. Tous les mots de la langue arabe ne suffiraient pas à exprimer ce que je ressens. Nous revenons à Gaza. Jamais nous ne renoncerons à notre terre. Le peuple palestinien a le droit de vivre ici, sous ce beau soleil. Sur la terre de ses ancêtres. La terre du peuple palestinien. L'ambiance festive dénote avec le paysage apocalyptique. Tout est gris, des amas de gravats, des carcasses d'immeubles. La vie a disparu à Gaza. C'est le moment de renaître de ses cendres, confie cette mère de famille. J'attends ce retour depuis presque un an et demi. J'ai été déplacé dans le sud, à Khan Younes et à Nusayrat. Et désormais, c'est l'heure des retrouvailles. Je vais enfin revoir mon fils resté dans le nord. Heureusement que cette guerre s'est terminée. Désormais, que Dieu vienne en aide à tous ces gens. Moi, je m'appelle Om Mohamed. Rami El-Merari, Gaza. Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Un cessez-le-feu enfin effectif à Gaza, tandis qu'Israël accroît la pression en Cisjordanie. L'armée israélienne a affirmé avoir éliminé plus de 15 terroristes et interpellé 40 personnes au cours d'une vaste opération militaire entamée la semaine dernière à Jenin. Au Liban, des habitants du sud du pays ont pu revenir dans certains villages frontaliers, malgré de nouveaux tirs de l'armée israélienne qui ont fait 2 morts et 17 blessés hier. Des violences qui interviennent au moment où la date limite du retrait des troupes israéliennes de la région a été repoussée du 26 janvier au 18 février. Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, qui a déclaré ce lundi soir que son mouvement considérait la poursuite de l'occupation israélienne comme une violation de la souveraineté libanaise. Des tirs hier soir encore à Goma, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre hier dans la journée de violents combats entre les forces congolaises et les combattants du M23 alliés aux troupes rwandaises. Combats qui ont fait 17 morts et près de 370 blessés ce lundi. L'assaut de Goma condamné par Washington tout à l'heure, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, qui a appelé le président congolais Félix Tshisekedi, tandis qu'un sommet extraordinaire de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, doit se tenir demain mercredi sur la situation dans l'Est de la RDC, annonce faite par William Ruto, le président kényan. Les présidents congolais et rwandais se sont engagés à être présents lors d'entretiens bilatéraux, mais aucune confirmation pour l'instant de Kigali ou de Kinshasa, Gaël Alex.
Pour William Ruto, il n'y a pas de place pour une solution militaire dans l'est de la RDC. Le président kényan demande donc des discussions avec le M23 et toutes les parties, sans plus de précision. Interrogé sur la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC et le risque que cela compromette les discussions, le président botte en touche.
La situation est déjà très compliquée, donc la présence de forces de sécurité d'où qu'elles viennent ne rend pas les choses plus complexes. Cette situation dure depuis 30 ou 40 ans. Il y a une mission de la paix de l'ONU sur place depuis 20 ans. Il y a eu des forces de la communauté est-africaine qui sont venues et reparties, des forces de la SADC qui sont venues et vont peut-être repartir, donc c'est une situation compliquée.
Le Kenya a déjà tenté de jouer les médiateurs dans le dossier de l'Est de la RDC, mais le processus de Nairobi, lancé en 2022 par le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, a fait chou blanc l'année dernière, Kinshasa suspectant le Kenya d'avoir pris le parti de Kigali. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
La situation à Goma et ses évolutions qui sont à retrouver en une de notre site internet. Rendez-vous actualisé le plus régulièrement possible sur www.rfi.fr. RFI, les 23h05 à Bogota et à Washington, la Colombie, qui a finalement envoyé deux avions ce lundi pour rapatrier les migrants colombiens expulsés par les autorités américaines. Conclusion d'une journée de bras de fer à distance entre Donald Trump et Gustavo Petro. Initialement, les États-Unis avaient envoyé deux avions militaires pour expulser ces migrants dans des conditions indignes, selon Bogota. Au petit matin, nos concitoyens arriveront sur le territoire sans être menottés, s'est réjoui Gustavo Petro, dont les prises de position face à Donald Trump ont été diversement appréciées en Colombie. Marie-Ève de Teuf.
La crise a duré moins de 24 heures. Elle a enflammé le débat politique. Pour les uns, Gustavo Petro, en confrontant Donald Trump sans réfléchir sur le réseau X, a mis le pays en danger. La droite n'est pas la seule à le penser. César Páez, professeur universitaire.
Pour las personalidades de los protagonistas, la
crisis... Si on considère la personnalité des protagonistes, cette crise a eu des allures d'opérette latino-américaine. Mais si on prend en compte les conséquences qu'elle aurait pu avoir pour la Colombie, on est plus près de la tragédie.
Les détracteurs de Petro lui reprochent d'avoir en plus humilié le pays. Mais le coup de sang du chef de l'État a aussi ses défenseurs en Colombie et dans toute l'Amérique latine. Sara Suarez, institutrice à Bogota.
Je trouve que la position de Petro face à Trump, en ces temps où l'extrême droite est en progrès partout, a une valeur symbolique forte. Immédiatement, sur le réseau X, les gens ont commencé à parler d'intégration latino-américaine ou de rapprochement avec d'autres pays. Moi, je trouve qu'elle a eu un impact immédiat dans le débat.
La Colombie ne peut pas se permettre une guerre commerciale avec les États-Unis. Tout le monde en convient, mais Sarah regrette que Petro ait cédé, je cite, trop rapidement. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
La crise migratoire également au Brésil, où le gouvernement a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Brasilia pour réclamer des explications sur le traitement dégradant de 88 migrants illégaux brésiliens lors de leur expulsion par les États-Unis, qui avaient aussi été menottés pendant leur vol de rapatriement. L'actualité en Asie. Un acteur chinois a été kidnappé en Thaïlande puis envoyé en Birmanie dans une usine d'arnaque en ligne. Voilà donc une affaire qui fait grand bruit en Chine. Les autorités qui viennent d'arrêter le principal suspect. Une affaire qui dévoile au grand jour un véritable trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est. Carlotta Morteo.
Sous différents pseudos, Yan Wenlei se faisait passer pour un chasseur de tête d'une entreprise de divertissement thaïlandaise sur des groupes d'acteurs du réseau social chinois WeChat. Des dizaines ont ainsi été attirés par de fausses promesses d'embauche ou atterri à Bangkok pour être transférés de l'autre côté de la frontière birmane à Miawadi, devenue la plaque tournante des escroqueries en ligne et des arnaques téléphoniques internationales. En Birmanie, mais aussi au Cambodge, des centaines de milliers de personnes, selon les chiffres des Nations Unies, seraient enfermés, forcés de tromper les internautes en leur vendant de faux produits sous peine d'être torturés. Une forme d'esclavage sur laquelle prospèrent les mafias chinoises. La disparition médiatisée de l'acteur Wang Xing, libéré le 7 janvier, a révélé la complexité des scénarios inventés par les criminels pour attirer leurs proies et la difficulté qu'ont les autorités chinoises et thaïlandaises à lutter contre ce trafic d'êtres humains. Même si aucun touriste n'a été kidnappé en pleine rue, la multiplication de ces affaires a fait chuter de plus de 10% la fréquentation touristique des Chinois en Thaïlande pendant le nouvel an lunaire.
En France, la consommation de cocaïne a battu des records ces dernières années et la demande est toujours aussi forte. Le transport de cette drogue qui se fait surtout par voie maritime et le port du Havre au nord-ouest du pays est pointé du doigt dans un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Un document publié hier sur l'offre de stupéfiants en France en 2023. On y apprend aussi que la consommation d'héroïne est stable mais que la production d'opium en Afghanistan s'est effondrée depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Résultat, des opioïdes de synthèse ont pris la place du pavot sur les marchés européens et c'est très dangereux selon Laurent Laniel. Il est analyste à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
En 2024, cette prohibition s'est poursuivie à un niveau un peu moindre qu'en 2023, mais on reste à des niveaux très très bas. Les informations dont nous disposons à l'EUDA, basées sur l'analyse de photos satellitaires, montrent qu'il existe des stocks en Afghanistan et sans doute dans les pays alentours, et que les premiers effets qui sont visibles de cette prohibition, c'est qu'une partie de l'héroïne qui est exportée hors d'Afghanistan est plus coupée qu'auparavant. C'est-à-dire qu'ils exportent une héroïne qui est moins pure que celle qui était exportée avant la prohibition, mais si cette prohibition se poursuit, un des effets potentiellement très délétères, ce serait l'apparition d'opioïdes de synthèse pour remplacer l'héroïne. Ce sont des produits très forts, très très puissants, beaucoup plus puissants que la morphine, qui est donc le principe actif en fait de l'héroïne, ce qui peut résulter en des décès d'overdose vraiment très rapides. Il y a eu plusieurs décès dus à des poudres contenant des nitazènes, donc ces nouveaux opioïdes de synthèse qu'on retrouve sur le marché.
Des propos recueillis par Marie Cazadebé. Enfin, Azincourt s'appellera finalement Achille, un nom qui sera donné à l'un des nouveaux sous-marins de l'armée britannique. Azincourt, c'est le nom d'une célèbre bataille remportée par l'Angleterre face à la France en 1415 lors de la guerre de Cent Ans. Un revirement qui ne plaît pas vraiment en Grande-Bretagne, qui ne plaît pas vraiment notamment au ministre de la Défense, qui parle même de sacrilège, Franck Alexandre.
C'est par un message sur les réseaux sociaux que la Royal Navy a annoncé que le 7e sous-marin d'attaque britannique serait baptisé Achille, décision approuvée par le roi Charles III. Pourtant, en 2018, sa mère, la reine Elisabeth II, avait validé le nom d'Azincourt. Terrible défaite ou immense victoire, de part et d'autre de la Manche, c'est selon. C'est à Azincourt en tout cas qu'en 1415, en pleine guerre de Cent Ans, les archers anglais ont terrassé la fine fleur de la chevalerie française. Plusieurs navires de la Navy ont d'ailleurs par le passé porté le nom d'Azincourt. Ce revirement viserait-il à ne pas froisser les Français? La presse britannique se perd en conjectures, mais le UK Defense Journal note que le choix du nom coïncide avec les commémorations de la victoire des Alliés en Europe. Leur sous-marin portera donc le nom d'un guerrier de légende, Achille.
Franck Alexandre, sur RFI, on termine par un mot du tirage au sort de la CAN 2025. C'était hier à Rabat. Et le Maroc, pays hôte, aura fort à faire dans le groupe A face au Mali, face à la Zambie et face aux Comores, assez valeureux adversaire qui s'était qualifié pour la première fois pour la Coupe d'Afrique en 2021. C'était au Cameroun. Également, des gros chocs à suivre dès le premier tour dans le groupe F. Le vainqueur de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire, qui affrontera le Cameroun, mais également le Gabon et le Mozambique. Et puis dans le groupe D, le Sénégal fera face à la République démocratique du Congo, au Bénin et au Botswana. Voilà tout le tirage au sort complet à retrouver évidemment sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, il est 5h12 ici à Paris, l'info continue sur notre antenne.
Martin Guèze.
À suivre dans le prochain quart d'heure, les droits de douane, de la discorde entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump peut-il vraiment se passer des marchandises canadiennes? Réponse avec Pascal Guéricola, notre correspondante au Canada. Nous irons ensuite à Dakar à la rencontre de Mounia Orozman, ancienne mannequin et désormais peintre martigalaise, comme elle dit, d'influence martiniquaise et sénégalaise. Elle sera notre invitée. Nous terminerons avec nos rendez-vous habituels, le conseil santé de Caroline Paré et le choix musical des programmateurs de RFI. Mais tout de suite, on met le cap au nord. Une fois n'est pas coutume, direction le Groenland, au cœur de l'actualité depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président républicain qui a ouvertement fait part de ses velléités d'annexer ce territoire sous autorité danoise, qu'il estime essentiel à la sécurité nationale américaine. L'île Arctique qui occupe en effet une position géopolitique unique, car le réchauffement climatique est en train d'ouvrir de nouvelles routes maritimes. La fonte des glaces dévoile petit à petit les trésors de son sous-sol, fait de minerais et de terres rares. Nuuk, capitale du Groenland, où s'est rendu Ottilia Ferré. Reportage.
Quand on survole le Groenland en avion, on aperçoit des étendues de glace à l'infini. Et pour cause, une gigantesque calotte glaciaire recouvre 80% du territoire. Alors que peut bien vouloir Trump de cette immense terre gelée? Kupanuk, Inuit et ingénieur minière, a son explication.
La raison pour laquelle il dit qu'il veut acheter le Groenland et que son fils visite le Groenland, c'est juste pour montrer qu'il est là. C'est juste une manière politique et tactique d'éloigner la Chine et la Russie du Groenland en déclarant « Je suis ici, c'est mon territoire ».
I am here. This is my territory.
Donald Trump le sait bien. Sous ses épaisses couches de neige et de glace repose un petit trésor géologique sur le point d'être révélé au monde, car au Groenland, la glace fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80.
We have a lot of minerals.
Nous avons beaucoup de minéraux. Le Groenland est comme un paradis pour les géologues. Nous avons des terres rares, nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons des diamants, des rubis, du titane, du zinc, du plomb. Sérieusement, nous avons de tout.
Ce jour-là, c'est journée porte ouverte à l'Institut des ressources ressources naturelles du Groenland. Les habitants viennent en famille pour découvrir et apprendre davantage sur les ressources de leur terre. Beaucoup veulent parler avec Maaike Nyhus-Poulsen, première géologue groenlandaise. Devant elle sont exposées des dizaines de roches différentes. Elle en pioche une multicolore.
Ça, c'est une terre rare, par exemple. Elle vient d'un des plus gros gisements que nous possédons dans le sud du Groenland. C'est l'un des plus grands au monde.
Ce minéral est indispensable à la transition écologique enclenchée par de nombreux pays dans le monde. Il est utilisé dans la fabrication de toutes sortes d'appareils électroniques de notre quotidien, notamment les fameuses voitures électriques d'Elon Musk. C'est pour cela que le Groenland, terre gelée, est aujourd'hui devenu terre de conquête. Au centre de recherche arctique ce jour-là, on trouve aussi Penelope Ruthau, glaciologue et climatologue. Devant elle, une carte du Groenland sur laquelle elle pointe la face nord-ouest du territoire. Avec la fonte des glaces, ce passage au nord du Canada, infranchissable il y a encore quelques années, commence à devenir accessible durant la courte période de l'été, entre fin juillet et mi-septembre.
Ça ouvre beaucoup de possibilités, mais ça remet aussi en cause la sécurité dans l'Arctique.
La Russie et la Chine manifestent des intérêts croissants pour l'Arctique. Les deux pays construisent de plus en plus d'infrastructures et investissent dans des projets miniers. Contrôler ce nouveau passage maritime ainsi que le territoire tout entier serait donc un moyen pour les États-Unis de contrer ces deux grandes puissances. Un moyen aussi d'assurer ses arrières militaires et de protéger la base américaine de Thule, cruciale pour la surveillance et haut lieu de sécurité avec des systèmes de défense antimissiles. Ottilia Ferré, de retour de Nouk, Groenland, RFI.
Un reportage à retrouver dans la longueur dans Accent d'Europe. Rendez-vous ce soir à 19h10 temps universel. La guerre commerciale est lancée entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump le répète à qui veut l'entendre. Son pays n'a pas besoin des produits canadiens et veut cesser d'importer certains biens. Et veut surtout taxer à hauteur de 25% les marchandises de son voisin à partir du 1er février. On retrouve tout de suite notre correspondante au Canada, Pascal Guéricola. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors est-ce que les États-Unis peuvent vraiment se passer des importations canadiennes, et notamment de son pétrole ?
Si l'on en croit Donald Trump, il suffit de forer davantage aux États-Unis pour rendre ce pays autosuffisant en pétrole. Dans les faits, presque 20% du pétrole consommé vient du Canada, le quatrième producteur au monde. Il s'agit d'un pétrole lourd comparé à celui produit au Moyen-Orient. C'est pour lui que les raffineries du centre des États-Unis sont actuellement configurées. Autrement dit, elles ne pourraient pas traiter du jour au lendemain cette énergie fossile venue d'ailleurs. Il leur faudrait plusieurs années pour adapter leur technologie. Autre problème, l'orientation géographique des pipelines. Ils sont dirigés du nord vers le sud, justement pour acheminer le pétrole vers le Midwest américain ou le golfe du Mexique. Il paraît donc illusoire d'imaginer que l'économie américaine se passe du jour au lendemain de cette ressource naturelle canadienne.
Difficile pour les États-Unis de se passer du pétrole canadien, difficile aussi pour les Américains de se passer d'autres marchandises venues du Nord.
Parmi les métaux dont les Américains sont friands, l'aluminium vient en tête. Ils en consomment 6 fois plus qu'ils en produisent et la moitié vient du Canada. S'en passer constituerait donc un véritable casse-tête pour les entreprises qui en ont besoin pour leur production. Même chose pour le bois de construction canadien qui constitue 25% des achats côté États-Unis. Donald Trump a beau affirmer qu'il suffit de couper du bois américain, les scieries de ce pays ne disposent certainement pas des capacités nécessaires pour traiter cette ressource. L'industrie automobile nord-américaine pourrait-elle aussi être touchée si les États-Unis se coupent de l'industrie canadienne ? Actuellement, un véhicule peut passer 6 ou 7 fois la frontière avant d'être complété, tant la production des deux pays est imbriquée.
À vous entendre, Pascal, le Canada n'aurait donc pas grand-chose à craindre de son voisin américain.
Au contraire, il a tout à perdre si du jour au lendemain la frontière se ferme. 97% des exportations de pétrole canadien partent aux États-Unis. Cela serait donc catastrophique si le pipeline s'arrêtait à la frontière. Même chose pour les 90% de voitures canadiennes vendues côté américain. Ce n'est pas pour rien que le Canada voit les projets de Donald Trump comme une menace existentielle pour ce pays.
Merci Pascal Guéricola, correspondante de RFI au Canada. On part à la rencontre ce matin de Mounia Orozmann, ancienne mannequin mondialement connue, désormais peintre, qui expose son travail à la galerie 14-8 à Dakar, exposition intitulée « Retour à l'autre », une vingtaine de toiles abstraites pour cette martigalaise. On connaissait le terme de sénégalois, celui de martigalais et la contraction entre la Martinique et le Sénégal, ces deux terres d'origine. Mounia Orozmann, ancienne égérie d'Yves Saint-Laurent, désormais peintre, qui a rencontré à Dakar Gwendal Lavina.
Bonjour Mounia.
Bonjour.
Vous exposez à Dakar des peintures dans « Retour à l'autre », traversées, symboliques, martigalées. Que signifie Martigallet ?
Martigallet signifie tout simplement Martinique, Sénégal. Ce mot, ce nom me vient grâce à une très bonne amie qui s'appelle Muriel Wiltor, qui est sénégalaise, née ici. Et une partie d'elle est martiniquaise. Et elle a inventé ce mot que je trouve tout à fait approprié à ma nouvelle collection d'œuvres.
Pourquoi ? Que signifie cette rencontre entre la Martinique et le Sénégal pour vous ?
Ça me vient tout à fait à l'esprit, le président Senghor et bien sûr notre père, notre ami, notre, je dirais presque Dieu, Aimé Césaire. Il faut pas oublier qu'Aimé Césaire était très ami à Senghor. Ils étaient comme des frères. Comme je savais que je venais à Dakar, j'ai choisi un thème qui représente vraiment mes ancêtres, c'est-à-dire les Noirs, les Africains. Je viens de là. Je suis métissée, Italie, Martiniquaise de par ma mère, ainsi que même Viette. C'est un mélange incroyable, les Antilles. Mais je ne pourrais pas ne pas vous parler de l'Afrique. L'Afrique, c'est moi. Les Antilles, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est les Antilles. Enfin, vraiment, ça devient un monde.
C'est donc un pont entre ces deux civilisations qui n'en sont qu'une, si on vous écoute, que vous proposez à travers ces peintures ?
Tout à fait. C'est vraiment l'amour que nous avons de nous ressembler quelque part. Et dans mon travail de peinture pour cette collection-là, il y a la marchande de Saint-Louis. Et on voit une femme avec sa charge sur la tête. Et tout ça me vient de très loin. Parce que ma première fois au Sénégal, ça a été avec le magazine Vogue. Et là, j'étais agréablement surprise de voir ces marchandes qui portaient leur genre de panier ou de torche et qui portaient comme ça avec les seins bien en évidence, avec un port exemplaire, un port de mannequin.
Justement, le monde vous connaît surtout pour votre carrière de top modèle à partir des années 80. Vous avez été l'une des premières mannequins noires repérées par Givenchy, puis devenue une égérie, muse d'Yves Saint-Laurent. Qu'avez-vous retiré de cette expérience ?
La rigueur, en même temps beaucoup d'amour de ce monsieur, de ce monument qu'est Yves Saint-Laurent. Parce que c'est Yves Saint-Laurent qui m'a propulsée dans le monde de la haute couture. À l'époque, ça n'existait pas.
C'est aussi un parcours qui vous a mené partout dans le monde, dans toutes les grandes capitales, tous les podiums. Est-ce que votre art aujourd'hui reflète ça ? Tout ce que vous avez croisé ?
Tout à fait. Mon art représente vraiment tous les pays que j'ai pu côtoyer, même pour 2 jours. J'ai vu des couleurs et je suis une coloriste, vraiment, les couleurs. Même dans mon côté sombre par moment, il y a toujours la lumière. Je traite vraiment les lumières d'une certaine façon à moi.
Merci beaucoup, Mounia.
Oh, merci, merci, chère Ravi.
Eh bien, on est ravis aussi, exposition Retour à l'autre, à voir à la galerie 14-8 de Dakar jusqu'au 9 février.
Le conseil santé avec Sunway Assurance.
Et Caroline Paré s'intéresse ce matin au signe avant-coureur d'un pneumothorax avec le professeur Jean-Louis Coudert.
Professeur Louis-Jean Coudert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de pneumologie. Quels sont les symptômes évocateurs d'un pneumothorax ?
Alors, il y a un symptôme, c'est la douleur. La douleur. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le poumon, lui, n'est pas innervé. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose, ça fait pas mal, c'est toujours bien. Une très mauvaise chose, et on le voit tous les jours, c'est que des maladies peuvent s'y développer sans qu'on s'en rende compte. Comme le cancer du poumon, malheureusement. Tandis que la plèvre, c'est effroyablement douloureux. Dès que vous avez quelque chose qui vous fait mal à la plèvre, vous avez mal, et la douleur est très caractéristique. Il n'y a pas besoin de faire énormément d'examens, il suffit de discuter 5 secondes avec le malade. C'est une douleur qui est augmentée par les mouvements respiratoires, c'est-à-dire vous gonflez les poumons, vous les videz, ça vous fait plus mal, et à l'inverse, si vous les bloquez, si vous respirez plus, ça fait moins mal. Alors pourquoi c'est important ça ? Quand c'est à droite, pas trop de problèmes. Quand c'est à gauche, vous avez les poumons, un ami qui est le cœur. Ou il peut y avoir des douleurs de l'enveloppe du cœur parce que la plèvre a des frères. Le péricarde, autour du cœur, et sous le diaphragme, le péritoine, hors du tube digestif. Et à part dans les films de science-fiction, jusqu'à présent, personne ne peut arrêter son cœur volontairement. Donc, ce qui distingue les douleurs de la plèvre et du péricarde, c'est l'arrêt de la douleur, ou tout au moins sa diminution, lorsque vous bloquez la respiration. Donc c'est important de connaître cette sémiologie de base. Et ceci, que ce soit un problème, on va dire, aérique, c'est-à-dire de l'air qui arrive dans la plèvre, mais il faudra qu'on rappelle ce qu'est la plèvre, ou bien liquide, ce qu'on appelle une pleurésie.
Merci professeur Couder. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de la crise aux urgences qui n'en finit pas en France. Comment expliquer cette saturation des services? Quelles pistes pour réduire l'attente et améliorer l'efficacité des prises en charge? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et c'est bien noté, merci Caroline Paré. Et à tout à l'heure, on termine en musique avec Roseau et Mélissa Laveau. What Should I Smile? Choix ce matin des programmateurs de RFI.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for former lovers in my crimes. Another day without you, I'm better off without you. Another day without you, should I smile? Why should I smile for you? Action so vile, speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you,
Mélissa Laveau, What Should I Smile sur RFI, pourquoi devrais-je sourire? Peut-être car nous retrouvons Nemo en Peace dans quelques secondes pour la foi africaine. Lorraine Nemoza était aux platines, Grégory Lesca à la rédaction en chef.
Sélection du mois.
Depuis un mois, tout ça moins café, c'est pour vous.
Belle Grèce.
Moins pani ou l'eau, la carabie, non.
Samaracine.
Another round for what's bound come. I've been working too hard, I deserve fun. Flexing with a minute night, I deserve sun. Give me a fire, give me
a... RFI Musique. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
à quelle adresse habitez-vous ? Quelle solution pour relever les défis de l'adressage en Afrique ?
Demain,
quel avenir pour les partenariats entre les universités israéliennes et françaises ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp